Chapitre 8. Maintenant, il est nécessaire d'expliquer comment M. le baron Hulot était arrivé à grouper les chiffres de la dot d'Hortense et à satisfaire aux dépenses effrayantes du délicieux appartement où devrait s'installer Madame Marneffe. Sa conception financière portait le cachet du talent qui guide les dissipateurs et les gens passionnés dans les fondrières où tant d'accidents les font périr. Rien ne démontrera mieux la singulière puissance que communiquent les vices et à laquelle on doit les tours de force qu'accomplissent de temps en temps les ambitieux, les voluptueux, enfin tous les gens du diable. La veille, au matin, un vieillard, Johann Fischer, faute de payer 30 000 francs encaissés par son neveu, se voyait dans la nécessité de déposer son bilan si le baron ne les lui remettait pas. Ce digne vieillard, en cheveux blancs, âgé de 70 ans, avait une confiance tellement aveugle en Hulot, qui, pour ce bonapartiste, était une émanation du soleil napoléonien, qu'il se promenait tranquillement avec le garçon de la banque dans l'antichambre du petit rez-de-chaussée de 800 francs de loyer, où il dirigeait ses diverses entreprises de grains et de fourrage. « Marguerite est allée prendre les fonds à 2 pas d'ici, » lui disait-il. L'homme, vêtu de gris et galonné d'argent, connaissait si bien la probité du vieil Alsacien qu'il voulait lui laisser ses 30 000 francs de billets, mais le vieillard le forçait de rester en lui objectant que 8 heures n'étaient pas sonnées. Un cabriolet arrêta, le vieillard s'élança dans la rue et tendit la main avec une sublime certitude au baron qui lui donna 30 billets de banque. « Allez à 3 portes plus loin, je vous dirai pourquoi, » dit le vieux Fischer. « Voici, jeune homme, » dit le vieillard en revenant compter le papier au représentant de la banque qui l'escorta jusqu'à la porte. Quand l'homme de la banque fut hors de vue, Fischer fit retourner le cabriolet où attendait son auguste neveu, le bras droit de Napoléon, et lui dit, en le ramenant chez lui, « Voulez-vous que l'on sache, à la Banque de France, que vous m'avez versé les 30 000 francs dont vous êtes endosseur ? C'est déjà beaucoup trop d'y avoir mis la signature d'un homme comme vous. »« Allons au fond de votre jardinet, père Fischer, » dit le haut fonctionnaire. « Vous êtes solide, » reprit-il en s'asseyant sous un berceau de vigne et toisant le vieillard comme un marchand de chair humaine toise un remplaçant. « Solide à placer en viager. » répondit gaiement le petit vieillard soc, maigre, nerveux et l'œil vif. La chaleur vous fait-elle mal? Au contraire. Que dites-vous de l'Afrique? Un joli pays. Les Français y sont allés avec le petit caporal. Il s'agit pour nous sauver tous, dit le baron, d'aller en Algérie. Et mes affaires? Un employé de la guerre qui prend sa retraite et qui n'a pas de quoi vivre vous achète votre maison de commerce. Que faire en Algérie? Fournir les vivres de la guerre, grains et fourrages. J'ai votre commission signée. Vous trouverez vos fournitures dans le pays à 70% au-dessous des prix auxquels nous vous en tiendrons compte. Qui me les livrera? Les razzias, l'achour, les califats. Il y a dans l'Algérie, pays encore peu connu, quoique nous y soyons depuis 8 ans, énormément de grains et de fourrages. Or, quand ces denrées appartiennent aux Arabes, nous les leur prenons sous une foule de prétextes. Puis, quand elles sont à nous, les Arabes s'efforcent de les reprendre. On combat beaucoup pour le grain, mais on ne sait jamais au juste les quantités qu'on a volées de part et d'autre. On n'a pas le temps, en rase campagne, de compter les blés par hectolitre comme à la halle et les foins comme à la rue d'enfer. Les chefs arabes, aussi bien que nos spahis, préférant l'argent, vendent alors ces denrées à de très bas prix. L'administration de la guerre, elle, a des besoins fixes. Elle passe des marchés à des prix exorbitants, calculés sur la difficulté de se procurer des vivres, sur les dangers que courent les transports. Voilà l'Algérie au point de vue vivrier. C'est un gâchis tempéré par la bouteille à l'encre de toute administration naissante. Nous ne pouvons pas y voir clair avant une dizaine d'années, nous autres administrateurs, mais les particuliers ont de bons yeux. Donc, Je vous envoie y faire votre fortune. Je vous y mets, comme Napoléon mettait un maréchal pauvre à la tête d'un royaume où l'on pouvait protéger secrètement la contrebande. Je suis ruiné, mon cher Fischer. Il me faut 100 000 francs dans un an d'ici. Je ne vois pas de mal à les prendre aux Bédouins, répliqua tranquillement l'Alsacien. Cela se faisait ainsi sous l'Empire. L'acquéreur de votre établissement viendra vous voir ce matin et vous comptera 10 000 francs, reprit le baron Hulot. N'est-ce pas tout ce qu'il vous faut pour aller en Afrique ? Le vieillard fit un signe d'assentiment. Quant au fond là-bas, soyez tranquille, reprit le baron. Je toucherai le reste du prix de votre établissement d'ici. J'en ai besoin. Tout est à vous, même mon sang, dit le vieillard. Oh, ne craignez rien, reprit le baron en croyant à son oncle plus de perspicacité qu'il n'en avait. Quant à nos affaires d'Achour, votre probité n'en souffrira pas. Tout dépend de l'autorité. Or, c'est moi qui ai placé là-bas l'autorité. Je suis sûr d'elle. Ceci, papa Fischer, est un secret de vie et de mort. Je vous connais. Je vous ai parlé sans détour ni circonlocution. On ira, dit le vieillard. Et cela durera ? 2 ans. Vous aurez 100 000 francs à vous pour vivre heureux dans les Vosges. Il sera fait comme vous voulez, mon honneur et le vôtre, dit tranquillement le petit vieillard. Voilà comment j'aime les hommes. Cependant, vous ne partirez pas sans avoir vu notre petite nièce heureuse et mariée. Elle sera comtesse. L'Achour, la razzia des razzias et le prix donné par l'employé pour la maison Fischer ne pouvaient pas fournir immédiatement 60 000 francs pour la dot d'Hortense, y compris le trousseau, qui coûterait environ 5 000 francs, et les 40 000 francs dépensés ou à dépenser pour Madame Marneff. Enfin, où le baron avait-il pris les 30 000 francs qu'il venait d'apporter ? Voici comment. Quelques jours auparavant, Hulot était allé se faire assurer pour une somme de 150 000 francs et pour 3 ans par 2 compagnies d'assurance sur la vie. Muni de la police d'assurance dont la prime était payée, il avait tenu ce langage à M. le baron de Nucingen, pair de France, dans la voiture duquel il se trouvait, au sortir d'une séance de la Chambre de Paris en retournant dîner avec lui. « Baron, j'ai besoin de 70 000 francs et je vous les demande. Vous prendrez un prête-nom à qui je délèguerai pour 3 ans la quotité engageable de mes appointements. Elle monte à 25 000 francs par an. C'est 75 000 francs. Vous me direz, vous pouvez mourir. » Le baron fit un signe d'assentiment. « Voici une police d'assurance de 150 000 francs qui vous sera transférée jusqu'à concurrence de 80 000 francs. » répondit le baron en tirant un papier de sa poche. « Et si je faisais destituer ?» dit le baron millionnaire en riant. L'autre baron, anti-millionnaire, devint soucieux. « Rassurez-vous, je ne vous ai fait l'objection que pour vous faire apercevoir que j'ai quelque mérite à vous donner la somme. Vous êtes donc bien chaîné, gare la banque à votre signature. « Je marie ma fille, » dit le baron, « et je suis sans fortune, comme tous ceux qui continuent à faire de l'administration par une ingrate époque où jamais 500 bourgeois assis sur des banquettes ne sauront récompenser largement les gens dévoués comme le faisait l'empereur. « Allons, vous savez, Josepha, » reprit le pair de France, « ce qui explique tout. Entre nous, la tuctérophile vous a rendu un fier service en vous ôtant cette sanction-là de dessous votre pierce. Je connais ce malheur, et je sais compatir, » ajouta-t-il en croyant réciter un vers français. « Écoutez à une gonzelle d'amis. Fermez votre boutique ou vous serez dégommé. » Cette véreuse affaire se fit par l'entreprise d'un petit usurier nommé Vauvinet, un de ces faiseurs qui se tiennent en avant des grosses maisons de banque, comme ce petit poisson qui semble être le valet du requin. Cet apprenti loup-cervier promit à monsieur le baron Hulot, tant il était jaloux de se concilier la protection de ce grand personnage, de lui négocier 30 000 francs de lettres de change à 90 jours, en s'engageant à les renouveler 4 fois et à ne pas les mettre en circulation. Le successeur de Fischer devait donner 40 000 francs pour obtenir cette maison. mais avec la promesse de la fourniture des fourrages dans un département voisin de Paris. Tel était le dédale effroyable où les passions engageaient un des hommes les plus probes jusqu'alors, un des plus habiles travailleurs de l'administration napoléonienne. La concussion pour solder l'usure, l'usure pour fournir à ses passions et pour marier sa fille. Cette science de prodigalité, tous ses efforts, étaient dépensés pour paraître grand à Madame Marneffe, pour être le Jupiter de cette Danaé bourgeoise. On ne déploie pas plus d'activité, plus d'intelligence, plus d'audace pour faire honnêtement sa fortune que le baron en déployait pour se plonger la tête la première dans un guépier. Il suffisait aux affaires de sa division, il pressait les tapissiers, il voyait les ouvriers, il vérifiait minutieusement les plus petits détails du ménage de la rue Vaneau. Tout entier à Madame Marneffe, il allait encore aux séances des chambres, il se multipliait, et sa famille ni personne ne s'apercevait de ses préoccupations. Adeline, stupéfaite de savoir son oncle sauvé, de voir une dot figurer au contrat, éprouvait une sorte d'inquiétude au milieu du bonheur que lui causait le mariage d'Hortense, accompli dans des conditions si honorables. Mais la veille du mariage de sa fille, combinée par le baron pour coïncider avec le jour où Madame Marneffe prenait possession de son appartement rue Vaneau, Hector fit cesser l'étonnement de sa femme par cette communication ministérielle. « Adeline, voici notre fille mariée. Ainsi, toutes nos angoisses à ce sujet sont terminées. Le moment est venu pour nous de nous retirer du monde. Car maintenant, à peine resterai-je 3 années en place. J'achèverai le temps voulu pour prendre ma retraite. Pourquoi continuerions-nous des dépenses désormais inutiles ? Notre appartement nous coûte 6 000 francs de loyer. Nous avons 4 domestiques. Nous mangeons 30 000 francs par an. Si tu veux que je remplisse mes engagements, car j'ai délégué mes appointements pour 3 années, en échange des sommes nécessaires à l'établissement d'Hortense et à l'échéance de ton oncle. « Ah, tu as bien fait, mon ami !» dit-elle en interrompant son mari et lui baisant les mains. Cet aveu mettait fin aux craintes d'Adeline. « J'ai quelques petits sacrifices à te demander, » reprit-il en dégageant ses mains et déposant un baiser au front de sa femme. « On m'a trouvé, rue Plumet, au premier étage, un fort bel appartement, digne, orné de magnifiques boiseries, qui ne coûte que 1 500 francs, où tu n'auras besoin que d'une femme de chambre pour toi, et où je me contenterai, moi, d'un petit domestique. Oui, mon ami. En tenant notre maison avec simplicité, tout en conservant les apparences, tu ne dépenseras guère que 6 000 francs par an, ma dépense particulière exceptée dont je me charge. La généreuse femme sauta toute heureuse au cou de son mari. « Quel bonheur de pouvoir te montrer de nouveau combien je t'aime » s'écria-t-elle. « Et quel homme de ressources tu es !»« Nous recevrons une fois notre famille par semaine, et je dîne, comme tu le sais, rarement chez moi. Tu peux, sans te compromettre, aller dîner 2 fois par semaine chez Victorin et 2 fois chez Hortense. Or, comme je crois pouvoir opérer un complet raccommodement entre Crevel et nous, nous dînerons 1 fois par semaine chez lui. » Ces 5 dîners et le nôtre rempliront la semaine, en supposant quelques invitations en dehors de la famille. « Je te ferai des économies, » dit Adeline. « Ah ! » s'écria-t-il, « tu es la perle des femmes. » « Mon bon et divin Hector, je te bénirai jusqu'à mon dernier soupir, » répondit-elle, « car tu as bien marié notre chère Hortense. » Ce fut ici que commença l'amoindrissement de la maison de la belle Madame Hulot, et, disons-le, son abandon solennellement promis à Madame Marneffe. Le gros petit père Crevel, invité naturellement à la signature du contrat de mariage, s'y comporta comme si la scène par laquelle ce récit commence n'avait pas eu lieu, comme s'il n'avait aucun grief contre le baron Hulot. Célestin Crevel fut aimable. Il fut toujours un peu trop ancien parfumeur, mais il commençait à s'élever au majestueux à force d'être chef de bataillon. Il parla de danser à la noce. « Belle dame, » dit-il gracieusement à la baronne Hulot, « des gens comme nous savent tout oublier. Ne me bannissez pas de votre intérieur. et daignez embellir quelquefois ma maison en y venant avec vos enfants. Soyez calme, je ne vous dirai jamais rien de ce qui gît au fond de mon cœur. Je m'y suis pris comme un imbécile, car je perdais trop à ne plus vous voir. »
Monsieur, une honnête femme n'a pas d'oreille pour les discours auxquels vous faites allusion. Et si vous tenez votre parole, vous ne devez pas douter du plaisir que j'aurai à voir cesser une division toujours affligeante dans les familles.
Eh bien, gros boudeur, dit le baron Hulot en emmenant de force Crevel dans le jardin, tu m'évites partout, même dans ma maison. Est-ce que deux vieux amateurs du beau sexe doivent se brouiller pour un jupon? Allons, vraiment, c'est épicier.
Monsieur, je ne suis pas aussi bel homme que vous, et mon peu de moyens de séduction m'empêche de réparer mes pertes aussi facilement que vous le faites.
De l'ironie, répondit le baron. Elle est permise contre les vainqueurs quand on est vaincu. Commencée sur ce ton, la conversation se termina par une réconciliation complète. Mais Crevel tint à bien constater son droit de prendre une revanche. Madame Marneff voulut être invitée au mariage de Mademoiselle Hulot. Pour voir sa future maîtresse dans son salon, le conseiller d'État fut obligé de prier les employés de sa division jusqu'au sous-chef inclusivement. Un grand bal devint alors nécessaire. En bonne ménagère, la baronne calcula qu'une soirée coûterait moins cher qu'un dîner et permettrait de recevoir plus de monde. Le mariage d'Hortense fit donc grand tapage. Le maréchal-prince de Wissembourg et le baron de Nucingen, du côté de la future, les comtes de Rastignac et Popinot, du côté de Steinbock, furent les témoins. Enfin, depuis la célébrité du comte de Steinbock, les plus illustres membres de l'émigration polonaise l'ayant recherché, l'artiste crut devoir les inviter. Le conseiller d'État, l'administration dont faisait partie le baron, l'armée qui voulait honorer le comte de Pforzheim, allaient être représentés par leur sommité. On compta sur 200 invitations obligées. Qui ne comprendra pas dès lors l'intérêt de la petite Madame Marneff à paraître dans toute sa gloire au milieu d'une pareille assemblée? Depuis un mois, la baronne consacrait le prix de ses diamants au ménage de sa fille, après en avoir gardé les plus beaux pour le trousseau. Cette vente produisit 15 000 francs, donc 5 000 furent absorbés par le trousseau d'Hortense. Qu'était-ce que 10 000 francs pour meubler l'appartement des jeunes mariés, si l'on songe aux exigences du luxe moderne? Mais monsieur et madame Hulot jeune, le père Crevel et le comte de Pforzheim, firent d'importants cadeaux, car le vieil oncle tenait en réserve une somme pour l'argenterie. Grâce à tant de secours, une Parisienne exigeante eût été satisfaite de l'installation du jeune ménage dans l'appartement qu'ils avaient choisi, rue Saint-Dominique, près de l'esplanade des Invalides. Tout y était en harmonie avec leur amour si pur, si franc, si sincère de part et d'autre. Enfin, le grand jour arriva, car ce devait être un aussi grand jour pour le père que pour Hortense et Wenceslas. Madame Marneff avait décidé de pendre la crémaillère chez elle le lendemain de sa faute et du mariage des deux amoureux. Qui n'a pas, une fois en sa vie, assisté à un bal de noces? Chacun peut faire un appel à ses souvenirs et sourira, certes, en évoquant devant soi toutes ces personnes endimanchées, aussi bien par la physionomie que par la toilette de rigueur. Si jamais fait social a prouvé l'influence des milieux, n'est-ce pas celui-là? En effet, l'endimanchement des uns réagit si bien sur les autres que les gens les plus habitués à porter des habits convenables ont l'air d'appartenir à la catégorie de ceux pour qui la noce est une fête comptée dans leur vie. Enfin, rappelez-vous ces gens graves, ces vieillards, à qui tout est tellement indifférent qu'ils ont gardé leurs habits noirs de tous les jours, et les vieux mariés dont la figure annonce la triste expérience de la vie que les jeunes commencent, et les plaisirs qui sont là comme le gaz acide carbonique dans le vin de champagne. Et les jeunes filles envieuses, les femmes occupées du succès de leur toilette, et les parents pauvres dont la mise étriquée contraste avec les gens infiocchi, et les gourmands qui ne pensent qu'au souper, et les joueurs à jouer. Tout est là, riches et pauvres, envieux et enviés, les philosophes et les gens à illusions, tous groupés comme les plantes d'une corbeille autour d'une fleur rare, la mariée. Un bal de noces, c'est le monde en raccourci. Au moment le plus animé, Crevel prit le baron par le bras et lui dit à l'oreille, de l'air le plus naturel du monde,
« Dieu, Dieu, quelle jolie femme que cette petite dame en rose qui te fusille de ses regards !»«
Qui ?»«
La femme de ce sous-chef que tu pousses, Dieu sait comme, Madame Marneff !»«
Comment sais-tu cela ?»«
Tiens, Hulot, je tâcherai de te pardonner tes torts envers moi, si tu veux me présenter chez elle, et moi, je te recevrai chez Héloïse. Tout le monde demande qui est cette charmante créature. » Es-tu sûr que personne de tes bureaux n'expliquera de quelle façon la nomination de son mari a été signée? Oh, heureux coquin! Elle vaut mieux qu'un bureau.
Ah, je passerai bien à son bureau. Voyons, soyons amis, Sina.
Plus que jamais, dit le baron au parfumeur, et je te promets d'être bon enfant. Dans un mois, je te ferai dîner avec ce petit ange-là. Car nous en sommes aux anges, mon vieux camarade. Je te conseille de faire comme moi, de quitter les démons. »
La cousine Bette, installée rue Vanneau dans un joli petit appartement au troisième étage, quitta le bal à 10 heures pour revenir voir les titres des 1200 francs de rente en 2 inscriptions. La nue propriété de l'une appartenait à la comtesse Steinbock et celle de l'autre à Madame Hulot Jeune. On comprend alors comment M. Crevel avait pu parler à son ami Hulot de Madame Marneff et connaître un secret ignoré de tout le monde. Car, M. Marneff absent, la cousine Bette, le baron et Valérie étaient les seuls à savoir ce mystère. Le baron avait commis l'imprudence de faire présent à Madame Marneff d'une toilette beaucoup trop luxueuse pour la femme d'un sous-chef. Les autres femmes furent jalouses, et de la toilette et de la beauté de Valérie. Il y eut des chuchotements sous les éventails, car la détresse des Marneff avait occupé la division. L'employé sollicitait des secours au moment où le baron s'était amouraché de madame. D'ailleurs, Hector ne sut pas cacher son ivresse en voyant le succès de Valérie qui, décente, pleine de distinction, enviée, fut soumise à cet examen attentif que redoutent tant les femmes en entrant pour la première fois dans un monde nouveau. Après avoir mis sa femme, sa fille et son gendre en voiture, le baron trouva moyen de s'évader sans être aperçu, laissant à son fils et à sa belle-fille le soin de jouer le rôle des maîtres de la maison. Il monta dans la voiture de Madame Marneff et la reconduisit chez elle, mais il la trouva muette et songeuse, presque mélancolique. «
Mon bonheur vous rend bien triste, Valérie, » dit-il en l'attirant à lui au fond de la voiture.
« Comment, mon ami, ne voulez-vous pas qu'une pauvre femme ne soit pas toujours pensive en commettant sa première faute, même quand l'infamie de son mari lui rend la liberté? Croyez-vous que je sois sans âme, sans croyance, sans religion ? Vous avez eu ce soir la joie la plus indiscrète, et vous m'avez odieusement affichée. Vraiment, un collégien aurait été moins fat que vous. Aussi, toutes ces dames m'ont-elles déchirée, à grand renfort de yade et de mots piquants. Quelle est la femme qui ne tient pas à sa réputation? Vous m'avez perdue. Ah, je suis bien à vous, allez. Et je n'ai plus pour excuser cette faute d'autre ressource que de vous être fidèle. « Monstre !» dit-elle en riant et se laissant embrasser. « Vous saviez bien ce que vous faisiez. Madame Coquet, la femme de notre chef de bureau, est venue s'asseoir près de moi pour admirer mes dentelles. « C'est de l'Angleterre, » a-t-elle dit. « Cela vous coûte-t-il cher, madame ?»«
Je n'en sais rien, » lui ai-je répliqué. « Ces dentelles me viennent de ma mère. Je ne suis pas assez riche pour en acheter de pareilles. »
Madame Marneff avait fini, comme on voit, par tellement fasciner le vieux beau de l'Empire qu'il croyait lui faire commettre sa première faute et lui avoir inspiré assez de passion pour lui faire oublier tous ses devoirs. Elle se disait abandonnée par l'infâme Marneff après 3 jours de mariage et par d'épouvantables motifs. Depuis, elle était restée la plus sage des jeunes filles et très heureuse, car le mariage lui paraissait une horrible chose. De là venait sa tristesse actuelle.
« S'il en était de l'amour comme du mariage, » dit-elle en pleurant.
Ces coquets mensonges que débitent presque toutes les femmes dans la situation où se trouvait Valérie faisaient entrevoir au baron les roses du septième ciel. Aussi Valérie fit-elle des façons, tandis que l'amoureuse artiste et Hortense attendaient peut-être impatiemment que la baronne eût donné sa dernière bénédiction et son dernier baiser à la jeune fille. À 7 heures du matin, le baron, au comble du bonheur, car il avait trouvé la jeune fille la plus innocente et le diable le plus consommé dans sa Valérie, revint relever monsieur et madame Hulot jeune de leur corvée. Ces danseurs et ces danseuses, presque étrangers à la maison, qui finissent par s'emparer du terrain à toutes les noces, se livraient à ces interminables dernières contredanses nommées des cotillons. Les joueurs de bouillotte étaient acharnés à leur table, le père Crevel gagnait 6 000 francs. Les journaux, distribués par les porteurs, contenaient au fait Paris ce petit article. La célébration du mariage de monsieur le comte de Steinbock et de mademoiselle Hortense Hulot, fille du baron Hulot d'Hervy, conseiller d'État et directeur du ministère de la guerre, nièce de l'illustre comte de Pforzheim, a eu lieu ce matin à Saint-Thomas-d'Aquin. Cette solennité avait attiré beaucoup de monde. On remarquait dans l'assistance quelques-unes de nos célébrités artistiques. Léon Delora, Joseph Bridau, Stidmann, Bixiou, les notabilités de l'administration de la guerre, du Conseil d'État et plusieurs membres des deux chambres. Enfin, les sommités de l'émigration polonaise, les comtes Patz, Laginski, etc. Monsieur le comte Wenceslas de Steinbock est le petit-neveu du célèbre général de Charles XII, roi de Suède. Le jeune comte, ayant pris part à l'insurrection polonaise, est venu chercher un asile en France, où la juste célébrité de son talent lui a valu des lettres de petite naturalité. Ainsi, malgré la détresse effroyable du baron Hulot d'Hervy, rien de ce qu'exige l'opinion publique ne manqua. Pas même la célébrité donnée par les journaux au mariage de sa fille, dont la célébration fut en tout point semblable à celui de Hulot fils avec mademoiselle Crevel. Cette fête atténua les propos qui se tenaient sur la situation financière du directeur, de même que la dot donnée à sa fille expliqua la nécessité où il s'était trouvé de recourir au crédit. Ici se termine, en quelque sorte, l'introduction de cette histoire. Ce récit est au drame qui le complète, ce que sont les prémices à une proposition, ce qu'est toute exposition à toute tragédie classique.